Le verre à moitié plein est le podcast du tourisme durable qui vous emmène à la rencontre de voyageurs, d'explorateurs et de professionnels engagés. Bienvenue. Aujourd'hui, je vous amène dans le Kerala, ce petit état au sud-ouest de l'Inde que l'on surnomme le pays de Dieu. C'est depuis le Kerala que l'on va vous raconter une histoire. Celle de Véronique, bretonne d'origine et installée depuis plus de 20 ans dans le pays de Gandhi. Une histoire d'amour pour ce pays extraordinaire, mystérieux, parfois inquiétant, souvent fascinant. À travers cette interview, Véronique se livrera pour nous expliquer son attachement si particulier à l'Inde, son rapport au tourisme durable dans un pays où l'activité touristique est en plein essor, et son choix d'une nouvelle vie, ici, au Kerala, à Nilaya, un lieu de vie et de partage fraîchement inauguré entre une rizière et le village d'Irulam en pleine campagne. Voyager et vivre en Inde, immersion à Nilaya, bienvenue en Inde, bon voyage. Véronique, bonjour et bienvenue sur le podcast. Avant de commencer cet épisode, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, présenter ton parcours de vie, ton parcours professionnel, celui qui t'a mené tout simplement à venir vivre en Inde, à créer ton agence de voyage Inde Expérience avec ton mari et maintenant à construire Nilaya, ce nouveau lieu de vie dans le Kerala.
Me présenter. C'est toujours un peu difficile en quelques secondes de résumer 53 ans d'une vie. J'ai découvert le tourisme, le voyage en lui-même, toute petite, à l'âge de 5 ans, en 1974 exactement. Et je suis partie en Polynésie française. Et je crois que le virus du voyage ne m'a plus quittée depuis. Et au gré d'un voyage au Sri Lanka, je me suis retrouvée bien malgré moi tour leader. Et je suis devenue tour leader pour une agence sur Toulouse qui s'appelait Asie Passion. Et un jour, en accompagnant un voyage en Inde, j'ai rencontré mon mari à l'aéroport. Donc celui qui allait devenir mon mari. Et donc c'était la personne avec la pancarte à l'aéroport.
Incroyable.
D'ailleurs maintenant il est interdit d'aéroport. Alors pourquoi je dis ça, il est interdit d'aéroport? C'est au cas où il rencontrerait une nouvelle touriste, on ne sait jamais.
Évidemment.
Et ce voyage a été une catastrophe, puisque j'envoyais des cartes postales à tout le monde en disant « c'est indescriptible, c'est indéfinissable ». Et tous mes mots de mes cartes postales commençaient avec un « Inde » et quelque chose derrière. Et ça m'était vraiment très compliqué. On était en plein mois de mai, il faisait 50. Je suis tombée en syncope à Cadjurao. C'est pas la destination qui m'a happée. C'est bien une rencontre avec une personne. Donc, cette personne qui est devenue mon mari et qui l'est toujours. Mais il était hors de question de vivre en Inde. Il se trouve que Raghu est venu en France, on s'est marié en France, on s'est installé en France, on a commencé notre activité en France et nous avons rencontré le 11 septembre. Ce 11 septembre a été un point tournant dans notre vie qui nous a obligés à venir en Inde et donc c'est ce qui m'a amené à m'installer en Inde ce 11 septembre. Et le deuxième tournant de notre vie, ce fut le Covid, c'est encore le Covid, qui m'a amené à me déplacer de New Delhi au Kerala dans lequel je suis actuellement.
On parlait tout à l'heure de ce déménagement de New Delhi au Kerala. On commence aussi toujours nos épisodes en demandant à nos invités leur vision du tourisme durable. C'est vrai que, bon, en Inde, j'imagine que c'est un peu particulier, côté tourisme national comme côté tourisme international, avec tous les enjeux et toutes les difficultés du pays. Quelle est aujourd'hui la place du tourisme durable en Inde ?
La place du tourisme durable doit devenir primordiale et première en Inde. Pendant le Covid, j'ai découvert, bien malgré moi, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, que je faisais du tourisme responsable sans le savoir. depuis 21 ans. C'est donc notre ADN, c'est la volonté de faire un voyage qui a du sens, de proposer des rencontres, de proposer du slow tourisme autant que possible, de demander aux clients voyageurs de prendre le temps de rencontrer l'autre. Ça doit être le tourisme qui prévaut en Inde, parce qu'il y a deux tourismes, le tourisme international, qui, à mon sens, est relativement respectueux et demandeur d'un tourisme durable. Par contre, il y a un tourisme domestique qui est un tourisme de masse et qui est un tourisme qui favorise la dégradation des lieux et l'appauvrissement des populations à destination.
Et donc, sur ce tourisme domestique, le tourisme durable n'est pas encore une préoccupation ou...
Ce n'est pas une notion, effectivement, qui est prise en compte pour beaucoup d'entre eux. Il faut bien se rendre compte qu'en Inde, le tourisme est très, très récent. C'est l'émergence d'une classe moyenne de ces 20 dernières années. Ces touristes ont de l'argent et ne regardent pas aux conséquences que peuvent avoir leurs actes.
On va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de Nilaya. Donc après, comme tu l'as dit, avoir vécu à Delhi pendant plusieurs années, vous décidez avec ton mari de changer de vie pour partir dans la nature, au Kerala, donc dans le sud-ouest de l'Inde. Le déclic, ça a été le Covid. Pourquoi ce désir d'aller dans le Kerala, d'aller de New Delhi, la grande ville, à la campagne?
Alors, ce désir de s'installer dans le Kerala n'est pas nouveau. Nous avons déjà eu par le passé un souhait de développer un projet dans le sud Kerala qui ne s'est pas fait. C'était en 2007-2008, parce qu'effectivement, les conditions de vie dans une grande ville telle que Delhi ne sont pas toujours faciles. En tout cas, en ce qui me concerne, moi je suis bretonne, du bord de mer, d'un petit village de 3000 habitants, et se retrouver dans une mégapole telle qu'on peut les connaître en Inde n'est pas une vie au quotidien facile de tous les jours. Le climat de Delhi est quand même très particulier, avec des hivers qui peuvent être assez drastiques. Alors même si quand on regarde les températures, on voit qu'il fait 18-20 dans la journée, on ne se rend pas compte que le thermomètre peut descendre à 4-5 degrés la nuit, et dans la mesure où les établissements ne sont pas chauffés, c'est 2 mois de galère. D'autant que 4 mois plus tard, on va être à des températures de 50 degrés. Donc ce souhait de vivre dans des conditions plus confort, d'un sud de l'Inde plus ensoleillé et plus agréable, et en soi le Kerala, ne s'est pas fait pour x raisons au moment où on l'avait envisagé. Donc on a construit notre vie à Delhi, nos enfants ont fait leur scolarité, ont passé leur bac, donc j'ai cumulé un total de 21 années à la grande ville. Et quand le Covid est arrivé, ça a été le déclic, puisqu'en fait ça faisait déjà 2 ans qu'on se disait, les enfants ayant quitté le nid, on va pas rester s'enfermer ici, il faut qu'on aspire à de meilleures conditions de vie. On vit 6 mois de l'année dans un smog, puisque la Delhi est l'une des villes les plus polluées au monde. Il faut qu'on pense à nous. Le boulot, c'est bien, mais il n'y a pas que le boulot dans la vie. On doit pouvoir faire notre activité professionnelle dans d'autres conditions. Et ensuite, pourquoi Vaianad? Pourquoi patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa biodiversité? Ce sont les aléas des rencontres qui font qu'on se dit c'est ici qu'on a envie de poser les valises. Ce n'est pas toujours un choix technique d'une carte que l'on ouvre et puis on dit on va aller s'installer là. C'est un parcours, c'est des recherches, c'est des rencontres. Et puis un jour, on se dit ça y est, c'est là que je dois poser mes valises.
Et maintenant, ça y est, vous êtes bien installée.
Presque.
Oui, encore quelques travaux à faire.
Oui, il y a encore quelques travaux à faire. Le plus dur existe. Nous sommes le 9 décembre et j'espère pouvoir accueillir nos premiers voyageurs le 31 décembre, c'est-à-dire dans 3 semaines.
Nilaya, ce sera à la fois votre lieu de vie et à la fois donc une maison d'hôte avec des chambres pour accueillir les voyageurs. En échangeant avant le podcast, tu m'avais expliqué que l'une des raisons à l'origine de la création de ce lieu, c'était la volonté de pouvoir proposer une offre d'hébergement plus durable, qui permette de se différencier de la concurrence, qui folkloriserait les idées. Ça m'intéressait de savoir ce que tu entendais par là.
Il se trouve que... Il n'y a aucune structure qui va... Il doit y avoir une structure qui s'approche de ce que je fais, mais qui est une structure hôtelière et en aucun cas une structure chambre d'hôte. Et j'insiste sur le terme chambre d'hôte parce qu'en Inde, le terme guest house peut être utilisé à l'inverse des chambres d'hôtes. Le terme guest house va être utilisé pour un établissement à petit budget qui offre des chambres et le propriétaire n'a aucune obligation d'être présent. La réglementation par rapport aux chambres d'hôtes impose un maximum de 5 chambres pour le Kerala et avec l'obligation des propriétaires, qui doivent bien être propriétaires et non locataires, d'être présents sur les lieux de façon à s'occuper des voyageurs. Donc ça, c'est très important parce que c'est aussi l'âme du lieu, c'est aussi toute la communauté que l'on fait travailler autour, que l'on fait fonctionner, auquel on s'est intégré. Il faut bien comprendre que quand on arrive comme ça dans un lieu, on est des gens de la ville. Il faut que les locaux comprennent ce que l'on souhaite faire. Pendant 6 mois, il a fallu que je me batte avec le terme « resort ». À partir du moment où on est blanche et qu'on s'installe dans leur montagne, les locaux voient on va installer un resort. Lorsque nous avons négocié le terrain, nous avons failli perdre la négociation du terrain parce que le promoteur immobilier qui nous avait mis en contact, qui nous avait présenté le lieu, s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de plus-value extraordinaire à faire et a essayé de monter le propriétaire en lui expliquant que nous allions y mettre un resort et que donc il y aurait des nuisances sonores, il y aurait des nuisances diverses et variées avec des touristes qui allaient venir dégrader son environnement. Fort heureusement, logeant à 4 km du lieu, nous avons pu être en contact direct rapidement avec le propriétaire, le vendeur, et nous lui avons donc expliqué que c'était en aucun cas un resort, mais que c'était des chambres d'hôtes et que les chambres d'hôtes pour des étrangers, j'insiste bien sur ce terme, correspondent à des attentes particulières, à savoir un partage avec les communautés, de rencontres avec eux, avec lui, qui allait de toute façon devenir mon voisin, la possibilité pour lui également de trouver une activité professionnelle en tant que jardinier sur le lieu, que s'il fait des légumes, nous sommes acheteurs et que dans toute la petite vallée qui est là, nous devenons des clients potentiels pour se fournir en circuit court. Et à partir du moment où on a pris le temps d'expliquer qu'il est venu nous rencontrer, qu'il a rencontré d'autres personnes qui nous connaissaient, qui savaient exactement le tourisme que l'on recommande et que l'on promouvoit depuis de nombreuses années, il a dit ben, « vous êtes exactement les personnes » puisqu'en fait c'était un vendeur qui n'était pas là uniquement pour vendre son terrain et faire une bonne affaire mais qui simplement cherchait à se sortir de la situation également Covid la tête haute et qui a dit ben, « c'est avec vous que je vais faire affaire parce que je sais que cette terre qui est la terre de mes ancêtres sera entre de bonnes mains.
Ouais, » on a parlé de l'aspect un peu plus économique et culturel on va dire du tourisme durable. Avec le choix du circuit court, de protéger la terre et la culture. Maintenant, j'aimerais qu'on parle aussi de la construction de Nilaya, on en parlait tout à l'heure, avec son architecture, parce que bon, malheureusement, on n'est que sur de l'audio, mais tu m'as envoyé une vidéo du lieu. On voit vraiment l'architecture originale, audacieuse, je dirais même. Moi, ça m'intéresserait de savoir comment s'est déroulée la conception du lieu, qu'est-ce qu'il y avait sur le terrain avant Nilaya. Quels choix architecturaux vous avez fait pour qu'ils soient respectueux de l'environnement, de la culture locale, qu'ils permettent d'utiliser des matériaux locaux?
Il y a eu d'abord le choix des architectes. Nous avons choisi de faire appel à une start-up avec des jeunes architectes qui sont à peine sortis de l'école et nous leur avons donné 5 mots qui étaient donc sustainability pour la durabilité, authenticité, confort, chic, rustique. Il était impératif que l'on soit totalement autonome en énergie, en eau, Donc, l'énergie solaire, à savoir, nous allons avoir une station de production électrique. Nous allons être branchés sur le réseau avec une production électrique quand il y a du soleil, que nous envoyons sur le réseau, que l'on utilise comme étant une grosse batterie. Donc, on a fait un modèle hybride qui a été calculé, travaillé en concertation avec une autre start-up. Donc, on a vraiment fait appel à de nombreux prestataires, des jeunes Indiens qui ont énormément de conscience sur la durabilité, sur la responsabilité. Il était important pour nous d'être dans la mesure où on est dans une région où il y a ce qu'on appelle des tribal settlements, hein, c'était de montrer aux tribus que les constructions, les techniques de construction qu'elles utilisent ont une vraie valeur. Et là, alors que je vous parle, mon bureau est installé dans une hutte traditionnelle, un peu revue, puisqu'on y a mis du carrelage, de l'électricité. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'être au plus proche des constructions locales et donc avec les architectes de travailler et les techniques de construction traditionnelles, mais avec une conception moderne, de façon à pouvoir répondre à des aspirations de voyageurs. Nous savons que les constructions indiennes ici locales sont très très sombres en intérieur et peuvent être froides à certains moments de l'année. Et donc on a préféré y apporter de grandes baies vitrées de façon à ce que lorsqu'on est dans sa chambre, on ait une vue et on ait cette impression de nature qui soit en osmose. Le terrain a été aussi sélectionné parce qu'il y avait de la végétation et il y avait une quantité d'arbres impressionnante. Et le deal avec les architectes a été qu'il fallait que l'on puisse préserver le maximum d'arbres. Ce qui fait que lorsqu'on arrive sur le site, ce n'est pas un terrain qui est nu avec des constructions neuves et que la végétation doit prendre sa place. La végétation a sa place. Elle a été au maximum respectée là où elle pouvait l'être respectée. Et maintenant, on plante des petits arbustes en dessous des grands. Et donc, on a un espace de vie qui est déjà très, très beau dans son espace naturel.
Donc, exactement les 5 mots que tu disais, un mélange entre du confort, tout en respectant la culture, l'architecture locale.
Exactement. Et puis, là, il se trouve que je suis également en train de mettre en place une RSE qui est pilotée par Capgemini France.
Capgemini, qu'est-ce que c'est ?
Capgemini, c'est un bureau de consultants en engineering. Et il se trouve que dans le cadre d'un programme qui s'appelle Earthship Sister, le projet de Nilaya a été retenu par Capgemini pour m'offrir un mécénat de compétences. Et donc, je travaille en relation étroite avec une docteure en RSE. Et ils ont développé un outil RSE à destination des entreprises. Et Nilaya fait partie du pilote. J'utilise l'outil Capgemini pour constater et établir le diagnostic de la RSE là, à ce jour, en phase de construction et vérifier qu'on a pensé à tous les éléments de la conception jusqu'au moment où on va être en position de proposer nos produits.
Maintenant qu'on a parlé donc de la construction, que le lieu est quasiment terminé, quel type de voyageurs vous aspirez accueillir dans ce lieu ? Quelles vont être par exemple les motivations du voyageur type qui souhaite passer quelques jours à Nilaya dans la campagne ?
Alors déjà, on ne vient pas à Nilaya pour juste faire stop and go. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à 19h pour partir le lendemain matin à 8h du mat. Nilaya, on y vient pour effectivement poser ses valises pendant un minimum de 3 jours. Et puis ça peut être plus, j'ai déjà un certain nombre de réservations. Et le temps de séjour va de 3 nuits à 9 nuits. Et ce sont des voyageurs qui sont en recherche de découvrir un patrimoine mondial de l'UNESCO, puisque j'ai la chance d'être dans cet environnement, de découvrir les tribus, de découvrir les différentes cultures, le café, le poivre, la cardamone, de découvrir la permaculture, tout ce qui est également culture organique, puisque ici c'est endémique et c'est fondamental, c'est au quotidien. Lorsqu'on passe une plantation, c'est pas de la monoculture. On va trouver un palmier, on va trouver un plant d'ananas, on va trouver un pamplemousse un peu plus loin. On a effectivement des grandes plantations qui vont être des plantations de café, mais qui vont être aussi avec du poivre, aussi avec de l'aragnut, aussi avec de l'EVA. Donc tout ce mélange, et un peu plus loin on a du thé, donc sur un district qui est très étendu, le Vayanad est l'un des districts les plus importants du Kerala, avec des paysages montagneux, on a des réserves naturelles, hein, puisqu'on a des réserves de tigres, d'éléphants sauvages, on a une vraie osmose entre les communautés tribales, les communautés religieuses hindoues, musulmanes, chrétienne, et tout ça fait qu'il y a un véritable écosystème. Il faut prendre le temps, il est nécessaire, mais il est surtout important de pouvoir avoir affaire à des facilitateurs. Et c'est souvent le terme que j'utilise dans ma profession. Je ne suis pas une agence de voyage, je ne suis pas un guide, je suis simplement une personne qui facilite aux voyageurs cette immersion. C'est pas toujours évident de s'immerger dans une culture aussi dense que la densité naturelle de l'environnement qui est autour. C'est ça juste aussi que les gens veulent, c'est de promouvoir le slow tourisme, de promouvoir sur un voyage où on aura forcément utilisé l'avion et donc on aura forcément une empreinte carbone, puisqu'on sait très bien que l'empreinte carbone d'un voyage est de 80 à 90% responsable de l'aérien, c'est que quand on est sur place, on puisse avoir des activités low carbone et de prendre le temps sur des lieux qui ont été éco-conçus, qui participent aux communautés locales, qui participent à l'économie locale, qui permettent de comprendre tout ce qui se passe et pourquoi c'est important de continuer à voyager malgré l'empreinte carbone de l'aérien, parce que c'est aussi un facteur de développement que ce tourisme responsable et durable.
Donc on peut totalement venir en voyage en Inde uniquement ici dans le Kerala.
Les gens sont toujours très étonnés parce que je suis en mesure de proposer 3 semaines au Kerala, où il va y avoir effectivement 5 ou 6 nuits à Vayanad avec des activités possibles tous les jours. Pour avoir conçu des programmes avec des activités tous les jours, au bout d'une journée, le voyageur me dit « Ah mais Véronique, j'ai juste envie de me poser. J'ai juste envie d'être sur ma terrasse et de profiter de l'environnement, de voir les femmes dans les rizières. En ce moment, c'est la récolte du riz. Ou juste de faire 50 mètres au pied de chez toi et de m'asseoir et puis de voir... d'écouter les oiseaux, de prendre le temps, de s'arrêter. Il se trouve aussi qu'on a souhaité mettre une place importante de la spiritualité dans notre lieu, et donc on y a construit un temple pour les voyageurs qui seraient désireux de comprendre un petit peu plus la philosophie hindouiste, de pouvoir discuter avec Raghu des différents dieux. Mais surtout un endroit qui invite à la réflexion, à la méditation, au calme, à juste s'asseoir. On est au milieu des oiseaux, on est au milieu de la nature, on est dans une petite maison, donc un temple qui a été construit de façon traditionnelle, telle que se fait les temples, avec les dimensions respectueuses du Vashtu. Donc il y a énormément de choses à expliquer, à comprendre sur les matériaux, le matériau qui a été des latrites qui ont été choisies, la charpente qui est une charpente en bois sans aucun clou, les tuiles qui sont des tuiles en terre cuite. Donc tous ces choix, un par un, ont une vraie signification et sont matière à apporter des discussions et à apporter des échanges aux voyageurs. Mais le Kerala, ce n'est pas que Vayanad. Il y a aussi les backwaters, il y a aussi les plages, il y a aussi Cochin, il y a aussi énormément d'autres destinations, Nilambari. Et à chaque fois, on peut trouver des personnes qui ont le même état d'esprit, qui ont la même conception. Et il se trouve simplement qu'on a souhaité développer à Nilaya ce qui n'existait pas, parce qu'on a déjà une offre sur de nombreux endroits au Kerala existantes et qu'on voulait pouvoir compléter cette offre avec Nilaya.
Donc Nilaya, bien plus qu'un simple hébergement, mais aussi un lieu de vie où, où le voyageur peut juste venir pour se poser, se relaxer et prendre du temps dans la nature. On va terminer le podcast là. Juste, est-ce que tu peux nous dire comment on peut réserver pour venir à Nilaya?
Pour l'instant, je suis pas au point pour réserver pour Nilaya, c'est-à-dire que le site internet n'existe pas, le logo n'existe pas, tout simplement parce que je suis en train de vouloir être dans l'éco-conception du logo et du site internet. Et c'est quelque chose que je viens de découvrir et je suis en formation au développement d'un éco-logo et d'un site internet éco-conçu. Donc, je ne suis absolument pas à jour, mais là où je suis à jour, c'est que Nilaya a déjà sa page sur Flokeo et donc vous pouvez d'ores et déjà réserver via Flokeo.
Parfait, eh bien, on va inviter alors nos auditeurs à réserver via Flokeo. Bon, c'est déjà la fin de l'épisode. Merci beaucoup, Véronique, d'avoir été avec nous pour nous raconter ton histoire et l'histoire de Nilaya. Donc, l'histoire aussi d'un tourisme durable qui se développe petit à petit en Inde. L'histoire d'un projet de maison d'hôtes, de chambre d'hôtes, plutôt ambitieux qui se concrétise. Et à partir de janvier 2023, passez vous ressourcer et découvrir la campagne de Vayanad et ses rizières à Nilaya en réservant donc directement depuis Flokeo, sans vouloir faire trop de promotion bien sûr. Et d'une manière générale, si un voyage en Inde vous tente, n'hésitez pas à contacter Véronique et son agence Inde Expérience pour un séjour engagé, sur mesure, respectueux de la nature et de la culture. Merci encore Véronique d'avoir été avec nous aujourd'hui, c'était un plaisir.
À très vite Nilaya.
C'est la fin de cet épisode du Verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.